c'est moins ma tasse de thé, je dirais, quelque part, parce que j'ai plus l'habitude, comme je vous l'avais expliqué, de travailler avec les membres. Mais après ça, il y a des appareils qui peuvent être intéressants. Et donc, il y avait l'appareil de Lakowski. L'appareil de Lakowski était la base et vraiment intéressante à connaître, parce que M. Lakowski, c'était un physicien russe qui avait travaillé longtemps en France au début du XXe siècle. Et lui, il avait réussi à développer des cancers en inculquant des virus à certaines plantes. Et après ça, il mettait cette plante, bien sûr, dans le sol, et il l'entourait d'un gros câble de cuivre qu'il enfonçait dans la terre. Ce câble de cuivre a eu la vertu, le rôle de concentrer les énergies cosmiques et les énergies telluriques sur la plante. Et à ce moment-là, quand la plante chopait les énergies dont elle avait besoin, et à ce moment-là, ça lui permettait de guérir. Donc évidemment, il y a eu des appareils qui se sont développés, ces appareils qu'on ne retrouve plus maintenant, ils sont construits empiriquement, artisanalement plutôt par certains ingénieurs à la retraite, on ne les retrouve plus, mais c'était intéressant parce que qu'est-ce que fait aussi le magnétiseur, qu'est-ce que fait le thérapeute énergéticien? Eh bien, il capte les énergies cosmiques, il capte les énergies telluriques et il les emploie aux son patient. Donc quelque part, il fait un appareil Lakowski sans avoir besoin de l'appareil. L'appareil MORA, je vous en ai parlé. Le laser est aussi, mais c'est pas les soft lasers, c'est vraiment les lasers qui pénètrent à l'intérieur d'une manière profonde. Il y a les physioscans, les champs électromagnétiques pulsés, le GDV, le SCURE, le rayon X. Donc c'est bon. Ce que j'aime bien, pour la petite histoire, c'est que quand on parle des corps énergétiques en France, on est toujours en train de nous demander est-ce que vous avez des preuves. Donc ça, c'est toujours en France, on en est encore là. Et tandis que quand vous voyez aux États-Unis, dans la recherche spatiale russe, la spéciale recherche spatiale américaine, sans parler de l'Inde, eh bien tout ça, les corps énergétiques sont des évidences. Ils sont pas en train de se poser la question de savoir si ça existe, ils sont en train plutôt de savoir comment on va les utiliser. Et là, par exemple, le GDV, c'est un appareil qui a été sorti de la recherche spatiale russe. Et ça, pour vous dire que c'est pas jeune, parce que c'était à l'époque encore où il y avait les stations Mir. Et les stations Mir, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils allaient envoyer deux bons hommes dans l'espace, qui allaient passer 6 mois ensemble, ou 3 à 6 mois dans l'espace ensemble. Et vous avez remarqué que c'est pas un 3 pièces de 600 mètres carrés, la station Mir. C'était plutôt un truc qui était de l'ordre de 6 à 9 mètres cubes. Donc il fallait que les gens s'entendent bien. Donc il le passait, faisait l'expérience du GDV. Le GDV analysait l'énergie de la personne et était capable de reconstituer son aura. Et à ce moment-là, il comparait les auras des deux cosmonautes qu'ils allaient envoyer, et si les deux auras pouvaient à peu près correspondre, eh bien à ce moment-là, il les envoyait dans l'espace. Mais s'ils avaient des auras qui ne correspondaient pas, il valait mieux éviter, parce que ça allait poser des soucis. Alors là, évidemment, maintenant, vous m'avez compris, on propose de passer le GDV avant tous les mariages. Ça tiendra au moins 6 mois. Voilà, donc ça, c'était les techniques du XXe siècle. Maintenant, on va aller un petit peu sur les nouvelles techniques qui font aussi partie, qui ont aussi un pied dans le XXe siècle, mais qui se développent aussi aujourd'hui d'une manière remarquable. Il y a tout ce qui est psycho-énergétique. Psycho-énergétique, qu'on va voir, qu'ils utilisent à la fois l'acupuncture et la concentration. Après ça, il y a les soins énergétiques. Il y a Ho'oponopono. Généralement, malheureusement, une fois sur deux, on n'a plus le temps de le faire, donc on en reparlera la prochaine fois. Donc, j'en parlerai. je plaisante. Et puis, on va parler de Aura. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces techniques sont des techniques d'autonomie. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des techniques que chacun peut apprendre et déjà utiliser chez lui tranquillement, tout seul, déjà pour solutionner un certain nombre de problèmes. Alors évidemment, ces techniques ne vont pas remplacer un médecin ou un thérapeute, une consultation, mais déjà, ça va permettre de nettoyer beaucoup, beaucoup de choses. Et comme ça, ça permet d'aller voir les thérapeutes ou les médecins que quand il y a vraiment, vraiment besoin. Voilà. Alors, les techniques de psycho-énergétique. Les techniques de psycho-énergétique, comment c'est que ça marche? Comment que ça marche? Eh bien, le principe. Imaginons, quand vous avez un gros choc émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Un gros choc émotionnel, bah, vous vous retrouvez complètement... C'est comme s'il y a un court-circuit au niveau du cerveau, et donc d'un seul coup, ça provoque un blocage énergétique au niveau du cerveau sur certains trajets du méridien, et en plus, nous, eh bien, on est tellement bloqué, paralysé par ce choc, qu'en fin de compte, on ne pense plus qu'à lui, et en plus, il peut y avoir les plus belles choses de la Terre qui sont autour de nous, on ne les voit même plus parce qu'on est concentré sur ce point, et le blocage énergétique n'arrange pas les choses. Et bien là, ce qu'on fait, nous, en acupuncture, quand il y a un blocage énergétique sur un méridien, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, nous, on va piquer, on va titiller le dernier point, le point de la fin du méridien. Donc là, ça permet, en titillant, en piquant ce point, ça nous permet d'ouvrir tout le méridien et donc de lever le blocage. Et bien là, on va faire exactement la même chose, c'est qu'on va aller titiller les points de méridien, mais les extrémités. Si bien qu'en titillant sur ces points, ça va réouvrir le méridien qui est bloqué. On ne sait pas lequel, comme on ne sait pas que c'est lequel, et on va les ouvrir tous. S'ils sont déjà ouverts, on ne va pas changer grand-chose. S'ils ne sont pas ouverts, s'ils étaient bloqués, ça va l'ouvrir. Mais en plus, on va, en même temps qu'on va faire ça, on va se concentrer sur notre problème. En se concentrant sur le problème, en ouvrant le méridien, ben d'un seul coup, la circulation se fait, la circulation énergétique se libère. D'un seul coup, la personne va commencer à se défocaliser de son problème, prendre un petit peu plus de distance, et d'un seul coup, elle va pouvoir le digérer ou le solutionner. Donc ça, c'est exactement le principe de la psycho-énergétique. Donc ça permet d'ouvrir les méridiens et à ce moment-là, aux personnes de soulager. Alors, je vais vous en parler de deux que j'aime bien. C'est le premier, c'est l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, ou le TEPPING, comme ils appellent aussi aux États-Unis. Eh bien, cette technique, elle, elle va commencer à travailler, avant de travailler sur les points, avant de travailler sur les points, eh bien, on va commencer par lever les blocages. Ça, c'est intéressant aussi, de lever ces blocages, parce que on a... Ok, oui, moi, l'EFT, ça, oui, beaucoup, c'est quand même bizarre, parce que un truc comme ça, comment voulez-vous que ça marche? Ça peut pas marcher, ça. Et puis, oui, bon, bah, ça peut marcher sur les autres, mais pour moi, mon cas est beaucoup plus grave. Hein, c'est pas l'EFT qui va l'arranger. Donc, si vous voulez, c'est qu'on a tous des blocages comme ça qui fait que ça peut venir gêner la réalisation ou le résultat de choses. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par lever le blocage. Donc, dans un premier temps, on énonce son problème, on évalue son intensité, par exemple, de l'échelle de 0 à 10, on dit 10, c'est l'angoisse ou la douleur la plus importante qu'on puisse imaginer dans sa vie. 0, c'est pas du tout d'angoisse. Donc, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous estimez l'intensité de votre problème, votre douleur, votre souffrance, votre déprime, votre angoisse? Donc, vous évaluez, par exemple, vous dites, OK, bah, c'est à 7 dixièmes. Après ça, on fait le point karaté. Donc, le point karaté, en général, le plus simple, c'est de taper sur les deux points karaté à la fois. Comme ça, vous avez compris, on est sûr de ne pas le faire. Donc là, vous tapez un peu comme ça. Voilà. Donc là, on est sur les deux points karaté. Et tout en continuant de taper, comme ça, on répète 3 fois. Même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte parce que je suis quelqu'un de bien. Et puis j'ai rajouté aussi et que je le vaux bien. Je l'ai piqué. Hein. Je l'ai piqué à L'Oréal, vous rappelez pas. Mais... Donc, même si j'ai tel problème, même si je ne crois pas que l'EFT pourra faire quelque chose pour moi, eh bien je m'aime et je m'accepte parce que je suis quelqu'un de bien et que je le vaux bien. Donc ça, on répète 3 fois cette technique. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça permet de lever des blocages psychologiques qu'on peut avoir. Et après ça, on va commencer à faire la véritable technique qui consiste essentiellement à tapoter sur certains points. Alors, il n'y a pas besoin de tapoter fort, hein, il suffit de tapoter tout doucement sur les points adéquats. Donc, le premier, c'est le point qui est au sommet de la tête, hein, qui est pratiquement au niveau du point le plus haut de la tête. Il y a l'angle du sourcil, l'angle de l'œil, il y a sous l'œil, il y a sous le nez. Travailler en musique maintenant. Et puis après ça, il y a au niveau du menton. Donc vous, on tapote un petit peu sur ces différents points. Il y a les derniers points aussi qui sont juste sous la clavicule et sous le bras. Donc à chaque fois, on tapote sur ces points. Et à chaque fois qu'on tapote sur ces points, on répète le problème. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous devez faire une conférence, vous êtes anxieux, bah, allez, anxiété, angoisse de parler en public, angoisse de parler en public, angoisse de parler en public. Et à chaque fois, on répète son problème. Et ça, vous faites ça une fois, vous faites ça deux fois, vous faites, c'est des rondes, vous voyez, vous refaites ça une fois, deux fois, trois fois, vous recommencez, refaites les rondes avec les différents points sur le haut de la tête, sur le long, le bas, le dessous, sous le nez, sous le menton, au-dessous de là. Et puis, après ça, quand vous l'avez fait deux, trois fois, vous réévaluez votre problème. Là, vous réévaluez votre problème, vous dites, OK, maintenant, quand je repense à mon anxiété, par exemple, de parler en public, où est-ce que j'en suis? Ah bah oui, bah en effet, je me sens moins anxieux. Ah oui, bah maintenant c'est à 4 dixièmes. Ok, on a gagné déjà 2 dixièmes, c'est bien. En l'espace de 2-3 rondes, eh bien, il suffit de continuer de faire des rondes comme ça pour au fur et à mesure de voir le problème qui s'amène. Alors autrefois, il y avait d'autres techniques. Il y avait, je dis autrefois, ils y sont toujours, hein, il y a beaucoup qui la présentent encore, mais moi ce que je me suis aperçu, c'est qu'aujourd'hui on a besoin que de ces points-là. Avant, on avait aussi d'autres des techniques qui étaient plus longues, qui étaient plus complètes, qui faisaient nécessité de taper sur certains points Suédois qui travaillaient aussi, qui étaient dans certaines attitudes, dont on regardait devant, on regardait en bas, on regardait en droite, on comptait, on chantait, etc., pour faire travailler sur les deux cerveaux, les cerveaux droit et les cerveaux gauche, et on recommençait une deuxième fois. Ça, c'était une ronde complète. Et là, c'est vrai que ça, des fois, il y a encore les choses qui marchent bien, mais je me suis aperçu qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin que de cette petite ronde-là à répéter plusieurs fois. Il ne faut pas la faire qu'une seule fois, mais il faut la répéter. Et je peux vous dire qu'en faisant ça une fois, deux fois, dix fois, ça prend quelques minutes simplement, et on sent au fur et à mesure que l'énergie se disparaît. Rappelez-vous que le principe, c'est quand on tapote le point, ça libère le méridien, ça rouvre le méridien, et quand ça rouvre le méridien, à ce moment-là, ça veut dire que la circulation se remet en harmonie, et d'un seul coup, la personne peut recommencer à solutionner son problème. Donc ça, c'est la première technique, c'est l'EFT. Il y en a même beaucoup qui ont travaillé sur les syndromes post-traumatiques, etc., qui avaient des résultats, même les syndromes du golf, ils avaient travaillé aussi là-dessus, le côté stress, le côté physique. Alors, il y a le TAT. Le TAT, qui est une autre technique de psycho-énergétique, qui est un peu moins connue, mais que j'affectionne particulièrement. Et c'est le TAT, ça veut dire Tapas Acupressure Technique. Alors, je suis désolé, tapas, ça ne veut pas dire qu'on va vous servir des petits gâteaux apéritifs. Hein. Je suis désolé, c'est tapas, c'est Madame Fleming Tapas qui a mis ça au point, et qui doit être une pointure, cette femme, parce que c'est vraiment une femme très, très intéressante. Là, l'idée, c'est qu'on va mettre une main derrière, la tête, donc qui va travailler sur certains points derrière, et l'autre, on va travailler... Hop, et l'autre, on va aller travailler sur le devant. Le devant, donc on met un pouce dans le coin de l'œil, l'autre, l'annulaire de l'autre côté, et les deux doigts, on va les laisser au centre. Donc ça nous permet de travailler sur les différents points, et sur trois points différents. Et là, ça donne des résultats très très intéressants sur les conflits anciens, sur les allergies, même sur les intolérances alimentaires, y compris quand on ne connaît pas l'origine. C'est vraiment très très troublant. Et là, quand je fais des stages de soins énergétiques, eh bien, moi, il y a toujours... Je pourrais le demander ici, je suis sûr qu'il y a obligatoirement quelqu'un qui se retrouve en ce moment à vivre une situation difficile dans sa vie. Et bien souvent, on se retrouve à ce moment-là, la personne, on lui demande de côté, là encore, sa souffrance. Souvent, c'est de l'ordre de 8 ou 9 ou 10 ou voire 11 dixièmes, tellement c'est des souffrances. Et là, on se met à tous à travailler ensemble, à faire l'exercice du TAT, et on répète tous ensemble pour elle ces phrases-là. Donc on peut le faire individuellement, mais on peut le faire aussi en groupe, et ça donne des résultats extraordinaires. La première phrase, vous voyez, c'est « je mérite », parce qu'elle va réutiliser à chaque fois les différents aspects du problème. Et donc à chaque fois, avant de dire la phrase suivante, on se recentre sur le problème avant de dire la phrase suivante. Donc la première phrase, c'est « je mérite de vivre et j'accepte toute l'aide et l'amour dont j'ai besoin pour guérir ». Donc ça, c'est la première chose, c'est que j'accepte toute l'aide. Et là encore, vous savez, c'est combien d'entre nous, et nous, on est là tous en train de se dire wow, « Waouh, moi je veux bien m'en sortir, mais je m'en sortirai tout seul, j'ai besoin de personne. » Et là, d'un seul coup, non, ok, j'ouvre les vannes, et puis je mérite de vivre, il faut que je passe à autre chose, et puis j'accepte toute l'aide pour le faire. Et puis c'est pendant 10 ans que ça va arriver, la deuxième phrase, c'est arrivé, c'est fini, je vais bien, c'est là, c'est maintenant, ça se fait. Après ça, vous avez toutes les origines de ce problème, ce corrigeur présent. Là, c'est aussi un troisième élément, parce que dans un problème, il n'y a pas qu'une seule origine. Il y a des origines qui vont s'additionner et qui vont finir par générer le problème. Et puis, il y a tous les endroits de mon corps, de ma vie, qui ont souffert de ce problème, ils guérissent à présent. Imaginez, par exemple, une personne qui a eu un gros choc émotionnel, je sais pas, un gros problème dans sa famille. C'est d'un seul coup, elle se retrouve à moins bien dormir. Comme elle dort moins bien, elle est fatiguée. Comme elle est moins fatiguée, elle est plus susceptible. Donc elle commence à avoir des problèmes conjugaux, elle commence à avoir moins bien travaillé parce qu'elle arrive moins à se concentrer, elle commence à avoir des problèmes dans le travail, et puis elle va peut-être perdre son travail, et puis donc tout ça, ça s'engraine. Et donc là, tout ça, c'est la conséquence d'un seul problème au départ. Et puis, vous pouvez aller toujours plus loin, c'est toutes les parties de moi-même qui ont bénéficié de ce problème se corrigent à présent. Et ça, c'est aussi important parce que dans toute situation, eh bien, il y a toujours des avantages à la situation. Et ça, c'est un sujet assez tabou parce qu'on n'ose pas trop en parler quand j'ai des patients. Mais moi, je me rappelle d'une dame que j'avais soignée. Elle habitait dans un HLM, elle était toute seule. Et elle s'est retrouvée avec un cancer, la pauvre. Mais seulement, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu le cancer, bah, tout le monde, toute la cavalerie est arrivée. Donc il y avait les médecins, les infirmières, les kinés, il y avait tout le monde qui arrivait. Et un jour, elle m'a lâché. Oui, mais si je guéris, il n'y a plus personne. Alors, si vous voulez, il y a tout un travail à faire à ce moment-là, de lui faire comprendre qu'on peut toujours avoir du monde, il y a peut-être d'autres méthodes pour avoir du monde que de tomber malade. Donc ça, c'est tout un travail qu'il y a à faire pour les aider. Après ça, c'est « je pardonne à tous ceux que j'ai blâmés à cause de ce gros problème, y compris Dieu et moi-même. » Mais que fait la police ? Donc là, on est toujours en train d'accuser. Et là encore, c'est « je pardonne ». Je pardonne. Et là aussi, c'est intéressant, parce que moi, je le faisais, ces choses-là, avec mes patients dans mon cabinet, pour leur montrer. OK, on faisait une séance ensemble pour montrer comment faire. Et puis, comme ça, on disait les choses. Et comme ça, les personnes qui disent « Non, non, moi, je veux solutionner mon problème, mais je ne suis pas prêt à pardonner. » Il n'en est pas question. Et là, je veux dire que c'est normal. On le fait tous. Il n'y a pas de, jugement là-dessus. Mais il faut bien comprendre, c'est que tant qu'elle n'a pas, tant qu'on n'est pas prêt à pardonner, on n'est pas prêt à solutionner. Après ça, je demande pardon à tous ceux que j'ai heurtés à cause de ce problème. Donc là, on fait toutes ces sept phrases-là, les unes après les autres, et on recote une deuxième fois son problème. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure, ben là encore, on sent très fortement, toujours, on fait ça toujours en maintenant la position ici. Hein, et donc, on maintient la position pendant tout le temps où on dit ces phrases, et entre chaque phrase, eh bien, on est en train de se reconcentrer sur le problème. Je peux vous dire que je suis toujours ébahi par la rapidité avec laquelle ça donne des résultats quand on est en groupe, mais sur soi, tout seul, c'est déjà très très efficace, tranquillement, chez soi, sans aide de personne, on y arrive déjà très bien. Alors là, c'est les psycho-énergétiques. Il y a d'autres techniques de psycho-énergétique que je connais moins bien, c'est le Zen 5, qui utilise des symboles guérisseurs plutôt que des points. Après ça, il y a le lâcher prise de Lester Benson, qu'on connaît plus avec la méthode Sedona, la méthode des 8 pauses, etc. Mais bon, ça, je les connais moins bien. Après ça, la pensée et l'intention. Eh bien, la pensée et l'intention, on a redécouvert tout ça, parce que, tout simplement, moi, je l'ai vu avec... Il y avait un livre qui s'appelle Le Secret, qui est très bien fait, d'ailleurs. Et le truc, c'est... Quand je fais des soins énergétiques, tous ceux qui font des soins énergétiques, on est toujours en train de demander à ressentir ceci, à faire ceci, à déplacer cela, à ressentir un blocage, etc. Et dès qu'on demande, on l'a. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la pensée, l'intention, eh bien, j'ai trouvé que c'était quelque chose de merveilleux parce qu'ils avaient tout à fait trouvé le mot juste. Or, c'est dit dans toutes les religions. Demandez, vous aurez. Dans toutes les religions, ils nous le disent. Or, la plupart du temps, dans notre éducation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu dis rien, c'est pas poli de demander, donc tu laisses faire. Donc on n'a pas l'habitude de demander. Vous savez, cette histoire de Moshe qui était en train de prier le bon Dieu, puis mon Dieu a dit, mon Dieu, faites que je gagne au loto, mon Dieu, faites que je gagne au loto. Tous les jours, il prie le bon Dieu, faites que je gagne au loto. Puis il répète ça sans arrêt, puis il y a bon Dieu à la fin, il dit, mais Moshe, moi je veux bien que tu gagnes au loto, mais il faudrait que tu joues au moins. Eh bien là, c'est pareil. Il faut demander. J'avais une jeune femme qui m'avait dit un jour, tiens, je vais ouvrir mon cabinet de thérapeute pourvu que ça marche. Et je lui dis, est-ce que tu as fait ta demande ? Ah ben non, j'ai pas pensé. Pourquoi c'est important de faire sa demande ? Parce que si vous faites votre demande, vous êtes en train de dire vraiment ce que vous voulez. Mais si vous ne la demandez, si vous ne le faites pas, à ce moment-là, quelque part, il va y avoir d'autres pensées, des pensées inconscientes qui vont prendre le relais. Et les pensées inconscientes, si une pensée inconsciente, une croyance qui traîne du genre qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes tout petit, que vous voulez rien, que vous ne réussirez rien dans votre vie, etc., ben, qu'est-ce qui va réussir ? Est-ce que c'est la réussite du cabinet ou c'est la pensée que vous ne voulez rien, que ça ne va pas marcher, que ça ne va jamais rien marcher dans votre vie ? Donc le fait de demander permet de placer les choses. Ça, c'est très très important. Et là, la pensée est extraordinaire parce que la pensée, elle permet déjà d'agir sur le corps. Hein. L'effet placebo, 35% d'effet des médicaments. 35% des médicaments et de toutes les thérapies. J'avais un jour un congrès, j'avais lu ça dans mon journal Le Quotidien du Médecin, il y avait un article comme quoi les psychiatres cherchaient à comment supprimer l'effet placebo des médicaments. Aujourd'hui, on a supprimé le placebo, puis il nous restait grand-chose. Non, je taquine, mais bon. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait autrefois, quand je m'étais installé, il y avait tous les médicaments qui étaient présentés contre placebo. Alors vous aviez par exemple, je vous rappelle, un problème d'un phlébotonique. Il était étudié, waouh, 45% d'efficacité, d'amélioration, etc. Bien. Alors j'ai besoin de lever votre doigt, là, il y a quelque chose en dessous. Ah oui, placebo, c'est 35%. Ah oui, donc 35% d'efficacité avec le placebo, 45% avec le phlébotonique. Bon, ben, pour avoir les 10% de plus, il faut que j'ai tous les effets secondaires aussi. Non, non, docteur Bonin, c'est pas comme ça que ça marche. Mais si, c'est comme ça que ça marche, parce que... Voilà. Et l'effet placebo, il y a eu une étude qui était sortie, qui était très intéressante en plus, parce que... Eh bien, il y avait un médecin, des médecins qui donnaient, qui disaient, ok, vous avez tel problème, ok, je vais vous donner un médicament, mais c'est un placebo, hein. Non, non, il le disait sérieusement. C'est un placebo. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous donne un placebo ou vous préférez que je vous donne un médicament normal? Et les gens qui acceptaient le placebo, eh bien, ils avaient encore un résultat. Et plus le placebo est cher, plus ça marche. Et c'est vrai. Hein. Alors après ça, il y a la pensée positive, hein, qui est très importante. On voit ça aussi avec Simonton, qui a fait aussi beaucoup travailler sur la visualisation, hein, qui est intéressante. Après ça, vous avez tout ce qui est hypnose, etc. Il y a le bonheur est contagieux. Alors là, j'espère bien que vous allez me l'attraper, celle-là, parce qu'il n'y a pas de vaccin, Dieu merci. Donc le truc, c'est que le bonheur est contagieux. Très sérieux comme étude. Très sérieux comme étude. C'est une étude qui a été faite sur 10 ans, sur 4000 personnes. On s'est aperçu qu'une personne qui était heureuse, ben, ça a commencé à irradier sur les personnes qui étaient dans sa famille, les parents, les enfants, etc. Bon, il n'y a pas besoin de faire d'études là-dessus, on le savait déjà. Après ça, on a vu aussi que ça commençait à irradier à ses amis. Mais à ses amis des amis. Et aux amis des amis des amis. Donc trois générations d'amis, et la troisième génération d'amis ne connaissait même pas la première. On s'est aperçu que d'être heureux aussi irradiait à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc, si vous voulez, ce sont des études qui sont très intéressantes parce que ça suit vraiment les résultats qui sont probants. Là. Il y a des 4000 personnes sur 10 ans, c'est quand même intéressant. Emoto qui est décédé il n'y a pas bien longtemps, c'était un homme absolument. J'avais adoré ce monsieur, je l'avais rencontré, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, le bon papy japonais. Et là, il avait montré aussi comment la pensée était capable de changer la cristallisation de l'eau, changer l'eau et donc donner des cristallisations différentes. La prière, moi j'avais vu ça avec les Harvard, à l'université de Harvard aux États-Unis, ils ont beaucoup étudié la prière. Là encore, c'est toute religion confondue, hein, c'est pas prosélytisme. Et là, dans la prière, ils s'étaient aperçus qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient suivies pour fécondation in vitro, pour stérilité, qui avaient des bénéficiés de fécondation in vitro, en Corée. Il y avait des groupes de prière qui étaient aux États-Unis, des groupes de prière qui étaient en Australie, puis un troisième, je sais pas où dans le monde. Eh bien, ils se sont aperçus que les femmes qui bénéficiaient des prières avaient 50% de fécondation in vitro réussie en plus que le groupe qui bénéficiait pas des prières. On a fait aussi des études dans certains hôpitaux. On séparait les patients d'un service arbitrairement en deux, et il y avait une belle moitié qui bénéficiait des prières, l'autre qui n'en bénéficiait pas. Les patients ne savaient même pas qu'ils bénéficiaient de prières. Ils ne savaient même pas qu'ils faisaient partie de l'étude. Eh bien, on voyait des évolutions significativement différentes dans un groupe et dans l'autre. Donc c'est vraiment, la prière est un élément important parce que ça amène encore un élément de plus. Et là, après ça, c'est le pouvoir de l'intention. Eh bien, le pouvoir de l'intention, c'est vraiment le pouvoir de l'attraction, parce que là, vraiment, autrement, on va voir ça tout à l'heure avec Ho'oponopono, mais Ho'oponopono, les psychologues, ils nous le disent bien. Ils nous disent, OK, nous avons un inconscient, mais c'est pas celui qu'on pense qui nous dirige. Donc là, c'est pour ça que quand on sait tout ça, on va attirer des choses qui ne sont pas forcément comme on le voudrait. Et c'est le pouvoir de l'intention, et c'est vraiment quelque chose de remarquable, parce que c'est le pouvoir de l'information, là encore, qu'on transmet à la chose. Parce que là, c'est comme si au niveau quantique, c'est comme si on était entouré par un grand champ de potentiel. Et ce champ de potentiel, notre pensée va attirer à nous, plus exactement, un potentiel plutôt qu'un autre. Donc la pensée est très très puissante, on en reparlera tout à l'heure. Le Reiki, j'en ai jamais pratiqué, mais j'ai eu beaucoup de patients qui me l'ont dit. Il y a beaucoup de maîtres Reiki qui sont venus à mes stages également, avec qui on a discuté, et qui sont vraiment, c'est des techniques d'imposition des mains, des techniques qui utilisent des symboles, qui harmonisent la circulation énergétique. C'est vrai que c'est vraiment un élément très intéressant. Ils ont des beaux préceptes aussi, hein, moi j'aime bien. Après ça, les soins énergétiques, ça je connais plus parce que c'est plutôt vraiment ma partie. Moi, les soins énergétiques, déjà, moi j'aime bien Lakowski dont je vous parlais tout à l'heure, il résume bien déjà la situation. Il disait, la vie est née d'une vibration, la vie est née d'énergie. La vie est entretenue par les vibrations, par les énergies, et elle meurt en l'absence d'énergie. Et l'énergie, c'est comme disait M. Livois tout à l'heure, c'est beau, c'est joyeux, c'est heureux, ça vit, ça bouge, charme. Et si jamais vous voyez un thérapeute énergéticien qui est triste et qui est malheureux, ou qui dit que c'est compliqué et que c'est difficile, partez. Hein. Partez, parce que là, c'est la joie, là, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est wow. On est bien quand on est dans l'énergie, on en demande, mettez-moi un petit coup sous les bras, ça sera bien. Voilà. Voilà, donc là, l'énergie, c'est l'interface entre le physique et le psy. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'énergie au niveau physique, chacune de nos particules n'est qu'une concentration d'énergie. Donc chacune de nos atomes n'est formée que d'énergie, chaque molécule est formée d'énergie, chaque protéine est formée d'énergie, chaque cellule est formée d'énergie. Donc on comprend très bien, rien qu'avec ça, on comprend très bien que comme le corps est le corps physique est formé que d'énergie, c'est notre premier corps énergétique, tout simplement. Eh bien, on comprend très bien que quand on va faire un soin, on peut avoir une action. On est énergétique avant même d'être chimique ou biologique. On est déjà énergétique. Et après ça, la pensée, ben, la pensée, c'est tout simplement une information qui va être portée par une onde, par une énergie. Donc là encore, on peut très bien, on a les soins énergétiques qui agiront aussi bien au niveau de la pensée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, moi, c'est mon petit protocole que j'avais mis en point, c'est-à-dire la première chose c'est que je conseillais toujours, c'est de replacer les corps énergétiques. Replacer les corps énergétiques, parce que déjà, si on veut travailler dessus, autant qu'ils soient bien en place. Et Dieu sait que la plupart d'entre nous ont les corps énergétiques qui se baladent à côté. Donc c'est ce qui s'appelle marcher à côté de ses pompes, hein, vous savez. Après ça, les fuites énergétiques, il y a beaucoup de fuites, Une des fuites énergétiques classiques, c'est par exemple le téléphone portable. Lui, il fait des fuites, surtout quand on le porte toujours sur soi, dans sa poche, etc., à l'oreille. Ça fait des jolis trous et ça fait des fuites énergétiques, par exemple. Donc là, c'est des éléments qui sont à la fois perturbateurs. Et pour la petite histoire, il y a aussi une chose qui est intéressante à noter quand on parle du téléphone portable. Eh bien, le téléphone portable, on a fait une étude intéressante sur l'étude Interphone qui montrait qu'il y avait un risque, un sous-risque de cancer pour les grands utilisateurs de téléphones portables. Ok. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que pour l'amiante, cette étude a été faite sur 10 ans. Pour l'amiante, il a fallu qu'on s'est aperçu de la dangerosité qu'à partir de 12 ans ou 13 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y avait un danger minime à partir de 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui sera plus important dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans. Et l'autre élément qui est encore plus important, à mon sens, c'est que quand on met le téléphone portable contre son oreille, on fait des trous dans l'énergie, soit, mais d'un autre côté, on est directement en contact avec notre cerveau. Or, regardez aujourd'hui le nombre de pathologies, le nombre de maladies au niveau du cerveau. Regardez au niveau simplement la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, on se retrouve avec pratiquement 1 million de personnes on va bientôt atteindre 2 millions de personnes en France. La fibromyalgie, il y a 1 400 000 personnes qui sont touchées. Le Parkinson, eh bien, on va avoir aussi des 300 000 personnes avec des états de schizophrénie, etc. Je ne veux pas dire que le téléphone portable est le seul responsable, mais le téléphone portable et peut être aussi un élément concomitant à tout ça. On sait très bien que le téléphone portable va, par exemple, rendre les membranes hémoméningées, oui, poreuses. C'est-à-dire, c'est que les polluants qui, normalement, ne peuvent pas rentrer dans le cerveau, grâce ou à cause du téléphone portable, vont à ce moment-là pouvoir pénétrer dans le cerveau. Donc ils vont vous dire, oui, le téléphone portable n'est pas responsable parce que c'est pas lui qui a amené le mercure dans le cerveau, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas le téléphone portable, le mercure il serait peut-être resté à la porte. Donc si vous voulez, c'est qu'il y a des choses qui sont concomitantes. Alors, après ça, donc, on replace, on travaille sur les fuites, après ça, on relance la prise de terre. Reprise de terre est très intéressante parce que la prise de terre, eh bien, quand vous avez une bonne prise de terre, vous êtes ici et maintenant, vous êtes dans le présent. Oh, une bonne nouvelle pour vous. Quand vous êtes dans le présent, eh bien, c'est le seul moment où vous vivez. Quand vous êtes en train de regarder dans les rétroviseurs sur le passé, oh le bon vieux passé, ou alors oh qu'est-ce que j'en ai bavé, peu importe, vous êtes en train de regarder, vous ne vivez pas, vous êtes en train de regarder derrière, vous êtes en train de penser au futur, oh, qu'est-ce qui va arriver, etc. Vous êtes dans la peur, mais vous ne vivez pas, vous êtes toujours pas dans le présent. Vous êtes en train de vous regarder un film, vous êtes en train de dormir, vous ne vivez pas. C'est simplement quand vous êtes ici maintenant que vous êtes dans le présent. Et ce qui est génial aussi, c'est quand on est ici maintenant, eh bien il y a le mental qui s'éteint. Donc là, ça permet d'avoir bien de la tranquillité. Après ça, on peut vider les énergies usagées, parce que là, les énergies, on les utilise à chaque seconde de notre vie, mais là encore, il faut, une fois qu'elles ont été utilisées, elles sont usagées, donc il faut les éliminer, un petit peu comme l'eau qu'on a bu, ben, il faut l'éliminer sous forme d'urine. Après ça, on va recharger au point de vue énergétique, c'est très très important, parce que chaque maladie, plus on est bas au niveau énergétique, et plus on est à même de tomber dans le domaine de la maladie. Et c'est pour ça que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que vous voyez, regardez avec l'épidémie de H1N1, entre autres. Eh bien, vous avez la chaîne, on a préverti tout le monde. Donc, on a fait peur à tout le monde. Souvent, c'était une information, mais qui était une information de peur également derrière. Or, cette information de peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse le niveau énergétique. Or, quand on baisse le niveau énergétique, justement, on se met dans le niveau énergétique de l'infection. Donc, vous voyez, c'est que, tout en voulant le préserver, on peut favoriser les choses. Après ça, enlever les blocages énergétiques, ça c'est vraiment un moment extraordinaire parce que chaque blocage correspond à un choc, pas tous, mais la plupart des blocages correspondent à des chocs émotionnels. Et les chocs émotionnels qui vont nous apparaître, ça va être les chocs émotionnels les plus importants de la vie de la personne. Donc, si vous voulez, c'est qu'en une séance, on peut enlever une, deux, trois chocs émotionnels, les trois chocs émotionnels les plus importants de la vie de la personne, ce qui libère complètement les choses. Et donc, au niveau énergétique, j'ai eu des personnes qui sont venues, mais elles m'ont dit, mais depuis que vous avez enlevé ces blocages, d'un seul coup, je sens ma vie qui redémarre, parce que simplement, les chocs émotionnels bloquaient les énergies et bloquaient, les empêchaient de poursuivre leur vie. Harmoniser les chakras est très importante, comme relancer la circulation énergétique sont des moments super importants. On peut interroger le corps. Un peu, il y a un test énergétique qui est très efficace, on peut obtenir la même chose avec la radiesthésie, on peut obtenir la même chose avec la kinésio, je suis bien d'accord. Mais bon, là, on reste dans le domaine de l'énergétique. L'enfant intérieur, là aussi, c'est un grand moment. L'enfant intérieur, c'est qu'on va interroger l'enfant intérieur qui sont à l'intérieur de chacun de nous. C'est qu'on est tous arrivés sur la Terre avec des talents, avec des aspirations, avec des qualités, avec une mission, quelque chose à faire, quelque chose à apprendre. Et donc là, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Mais dans notre société, la société n'est pas faite pour nous aider à développer ces talents. Si bien qu'on a développé notre ego, on a développé notre mental, et ce notre ego, ce mental, il vient nous blinder, nous amène à vivre dans la société sous des masques, sous des apparences, et donc, et quelque part, on a perdu le contact avec l'enfant intérieur. Et donc, on ne sait plus où. D'ailleurs, regardez, dans la vie, vous voyez, je suis médecin. Donc là, ouais, seulement maintenant je suis plus médecin, qu'est-ce que je suis ? Je suis plus rien. D'un seul coup, regardez le nombre de gens qui, au moment de la retraite, se sont toujours identifiés à leur métier, et quand ils ont plus le métier, ils sont plus rien, donc ils meurent souvent parce qu'ils n'arrivent plus à trouver une identification. On est bien plus que notre métier, on vaut bien plus que ça. Et là, c'est des masques qu'on porte si on vit avec des choses comme ça. Et les masques, en fin de compte, on nous met dans le paraître. Mais c'est un bon mot, c'est le mot paraître, parce que dans le paraître, on est dans le pas-être. Okay. Et quand on est dans l'être, ben c'est justement quand on est en train de voir la mission de l'enfant intérieur. Et voir en plus, comment on sait qu'on est sur notre mission ? Ça, c'est dur à comprendre. Eh bien, quand on est sur notre mission, et bien c'est quand on est heureux. Et quand on n'y est pas heureux, c'est qu'on n'est pas sur notre mission. C'est pas plus compliqué que ça. Après ça, il y a la transmutation des énergies. La transmutation des énergies, parce que quand on enlève les mauvaises énergies et qu'on les enlève à l'autre bout de la galaxie, c'est bien. Mais si d'un seul coup, vous prenez ces mauvaises énergies et que vous les transmutez en bonnes énergies, c'est beaucoup mieux. Et là, c'est plus un acte chirurgical que vous êtes en train de faire, c'est un acte d'amour. Et là, c'est vraiment super. Le mouvement primordial est quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai eu l'inspiration, il y en a comme d'autres. Et là, vous sentez ce mouvement qui est en toute chose, en toute chose. En toute chose, vous la trouvez dans la plus petite particule, vous la retrouvez dans l'organe, vous la retrouvez dans la cellule, vous la retrouvez dans le corps, vous la retrouvez sur la planète, vous la retrouvez partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'un seul coup, vous apercevez que la vie est partout. La vie est partout. Et là, d'un seul coup, on est obligé d'avoir un grand, grand respect sur tout ce qui nous entoure. Et donc, moi, de temps en temps, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai un arbre, voilà, je pense qu'il lui prend. Il a des branches qui poussent trop basse. Hein. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Donc, j'arrive avec mon sécateur. Et donc j'arrive avec mon sécateur, et puis d'un seul coup, je me rappelle qu'il a son mouvement primordial, qu'il a la vie et tout ça. Et puis donc je lui dis, elle est pas si basse cette branche, et puis je repars avec mon sécateur. Parce qu'on n'a pas la même vision avec le mouvement primordial, d'un seul coup on s'aperçoit que tout. Et ce mouvement primordial, on est capable de simplement en rééquilibrant ce mouvement primordial, par exemple, on est capable de replacer des vertèbres, replacer des corps, des articulations sans toucher aux personnes. Un peu extraordinaire. Après ça, il y a les soins énergétiques à distance qu'on peut faire, que la personne soit là ou à 20 000 km. Moi, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie pendant un certain temps. Et là, que vous soyez en Nouvelle-Calédonie ou vous soyez ici, vous avez exactement les mêmes efficacités. Donc ça, c'est vraiment les soins énergétiques qui sont vraiment des soins à part entière, qui nous permettent d'agir autant sur le physique que le psychique. Je dirais pas que ce sont des soins qui sont toujours, comme disait M. Livoy, très très juste. Moi, je parle jamais de médecine alternative. Jamais. Je parle toujours de médecine complémentaire. Complémentaire de la médecine conventionnelle, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que la médecine conventionnelle, elle prend toute la place et elle refuse systématiquement de laisser la place aux autres. Donc de la place aux autres, pas toute la place, mais de la place aux autres. C'est ça que je regrette. Par contre, autrement, toutes ces médecines sont des médecines qui sont des médecines complémentaires. Le gros problème qu'on a avec les médecines naturelles, c'est qu'on manque cruellement d'études. Et ça, la seule manière qu'on pourra faire en tant que médecin, je veux dire, j'ai travaillé beaucoup avec les médecines naturelles, mais je ne pouvais pas me permettre de faire un traitement alternatif à un traitement chimiothérapie ou choses comme ça, parce que je n'avais pas la preuve que ce traitement que j'allais proposer ne sera plus efficace que le traitement de la chimiothérapie, par exemple, ou de la radiothérapie, etc. Donc on manque d'études, et c'est ça qu'il va falloir vraiment développer dans l'avenir pour vraiment pouvoir développer ces médecines naturelles. Après ça, Ho'oponopono. Là, c'est trop bien. C'est trop bien. Ho'oponopono, c'est que du bonheur. Ho'oponopono, quand j'ai commencé à découvrir Ho'oponopono, eh bien, j'étais en train de lire les bouquins de physique quantique, et ces bouquins de physique quantique, ils m'ont dit, eh bien, la pensée, notre pensée crée la matière, notre pensée crée notre univers. Et donc, d'ailleurs, quand on voit, c'était Nassim Haramein qui racontait que, en fin de compte, tous les espaces vides, entre les particules, entre les planètes, etc., ce seraient des espaces qui seraient, en fait, pleins d'énergie. Ce seraient des espaces pleins d'énergie. Et d'ailleurs, vous savez, je crois qu'on a perdu 95% de l'univers, je crois, quelque chose comme ça. C'est ennemi avec les énergies noires, les énergies, la matière noire. Et donc, pour lui, ce serait ces énergies noires et matière noire, ce serait justement cette énergie incohérente qui serait dans ces espaces incommensurables. Et notre pensée rendrait ces énergies incohérentes en énergies cohérentes. Donc, rendrait, les matérialiserait. Comment on peut passer d'une matérialisation? Ben, simplement, je dis simplement entre guillemets, c'est qu'elle a simplement à baisser la fréquence, parce que là, l'énergie est une vibration haute, la matière est une vibration basse, et donc ça permettrait à ce moment-là de la rendre cohérente et de la rendre matérielle. Regardez d'ailleurs, la pensée, c'est une information. Regardez le mot information. Information, c'est informer, c'est donner la forme. Intéressant. Après ça, la physique, elle nous disait la pensée crée la matière. Et de l'autre côté, la psychologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle nous disait que c'est notre inconscient qui nous gouverne la plupart du temps. Et bien, quand j'ai commencé à lire les premiers articles de sur Ho'oponopono, les premiers articles américains, ben, ils étaient exactement, j'ai vu qu'on résumait exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'avec Ho'oponopono, le but, c'est on dit je suis créateur à 100% de ma vie. Créateur, je le supprime déjà. Je suis créateur parce qu'il est très mal compris, très mal interprété. On n'est pas créateur, on est les attracteurs. On attire dans notre vie une situation. Je vais vous donner un exemple. Si j'étais créateur, ça veut dire que je vous aurais créé. Parce que je vous ai amené dans ma vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, je pense que vous existez pour de vrai. Quand même, c'est bien, hein, je suis content. Vous êtes content de le prendre. Donc le truc, c'est que je vous ai attiré dans ma vie, comme vous m'avez attiré dans la vôtre. Et pourquoi? Parce qu'on a été animé par une pensée commune qui nous a fait que ce soir, on avait envie de parler de soigner avec l'énergie. Donc là, c'est cette pensée commune qui a attiré. Et donc, on est attiré à 100%. Par contre, 100%, que ce soit des pensées conscientes ou inconscientes, ça marche à 100%. Mais là encore, faut pas se bloquer. Moi, j'avais une amie qui était avec qui on avait déjeuné à un stage, elle me dit, Luc, ok, moi, je suis psychologue, elle me dit, ok, moi, je suis d'accord, on crée par notre pensée à 100%. Ok. Mais quand même, je voulais te dire, quand mon mari, il est désagréable avec moi, enfin là, c'est pas moi quand même, c'est lui qui est désagréable, c'est pas moi. Et donc pendant tout le repas, on avait conclu qu'elle était responsable à 99% de sa vie, que le dernier pourcent était bien sûr de son mari, et vous l'avez bien compris. Donc là, voilà, mais il faut pas se bloquer non plus au 100%, si on va du mal à l'admettre, c'est pas grave, il faut faire la suite. Après ça, mes pensées parfaites, bah, vont créer une situation harmonieuse. Alors si vous avez des pensées parfaites, une situation harmonieuse, un conseil ne changeait rien, hein, d'accord, on est bien d'accord. Après ça, si vous avez des pensées erronées, eh bien, elle va créer des pensées réalités désagréables. Donc là, vous avez envie de changer. Et pour changer ça, bah, il va falloir supprimer ces pensées erronées. Et donc, en changeant les mémoires erronées, on va changer notre univers. Alors qu'est-ce que c'est nos pensées erronées? Les pensées erronées, c'est par exemple une croyance. On a plein de croyances qui nous sont inculquées depuis notre enfance, par notre éducation, par la religion, par les parents, par tout ça. Il y en a une, par exemple, qui peut être utile à certains moments. Genre, vous conduisez votre enfant à l'école et puis vous lui dites « Attention, hein, ce soir, moi, tous les soirs, je viendrai te chercher, il n'y a pas de souci. Mais si je suis en retard, tu parles jamais aux étrangers. » Ok. C'est une croyance qui peut être utile à une certaine période de sa vie. Mais seulement s'il garde cette croyance étant adulte, bien, il ne parle pas à l'étranger, ça va lui poser des petits problèmes. Un autre élément aussi, c'est être gentil. Tiens, si tu étais gentil, tu irais chercher mes lunettes qui sont en haut. Tiens, si tu étais gentil, tu irais chercher le pain chez le boulanger. Tiens, si tu étais gentil, Donc ça finit par devenir des gens qui sont toujours gentils. Seulement, ils disent jamais non. Et ça pose aussi des gros problèmes au niveau relationnel. Donc tout ça, ça fait partie des pensées erronées. J'en avais une dame comme ça qui m'avait raconté. Elle était gentille. Une des caractéristiques, d'ailleurs, les femmes gentilles, et pouvoir. Beaucoup de femmes gentilles, et beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein sont des femmes gentilles d'ailleurs, hein, qui ont le cœur sur la main, qui ont comme ça. Et elle avait fait tout un cheminement qui l'avait sortie de cette maladie, mais elle était toujours gentille. Si bien que ses enfants l'appelaient de temps en temps, elle disait, on t'amène Noémie parce qu'on s'en va au cinéma. On t'amène Noémie parce qu'on s'en va au cinéma. C'est pas est-ce qu'on peut t'amener Noémie ce soir? C'est on t'amène Noémie parce qu'elle a toujours dit oui. Donc elle a tellement toujours dit oui qu'on lui demande même plus son avis. On dit on te l'amène. Et je me rappelle, elle me dit un soir, oh, j'avais repéré depuis le début de la semaine qu'il y avait ma petite émission télévision qui passait vendredi soir Ushuaïa. Ushuaïa, alors là, je l'ai dégusté depuis le début de la semaine. Le soir, j'avais préparé mon petit plateau télévision et j'allais arriver devant mon poste de télévision. Dring, dring, dring. Allô, on t'amène Noémie, on s'en va au cinéma. Eh bien, elle m'a dit, pour la première fois de ma vie, eh bien, je me suis entendu dire non. Elle m'a dit, j'ai raccroché. Eh bien, je me suis senti bien. Elle était dans son intégrité. C'est ça l'important. Elle continue de voir Noémie, mais quand elle a envie de le voir, elle ne le fait pas parce qu'elle est obligée de le faire. D'être gentil, c'est toujours bien, mais d'être gentil parce qu'on a envie de le faire. Il ne faut pas être gentil parce qu'on est programmé pour l'être, c'est différent. Voilà, donc si on corrige une pensée erronée, ben on corrige notre univers. C'est un peu la même chose que quand vous êtes en train de regarder, vous prenez votre ordinateur, vous l'allumez, puis d'un seul coup, vous allez vous dire, tiens, je vais regarder un petit film sur YouTube. Vous regardez le film, puis au bout de 2 minutes, vous dites, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce navet-là? Ça vaut rien du tout. Donc vous ne commencez pas par engueuler votre ordinateur. Vous ne mettez pas l'ordinateur par la fenêtre non plus. Vous savez que c'était vous qui avez amené ce film-là, c'est vous qui aviez ouvert le film. Donc vous savez très bien qu'il suffit que vous le fermiez, que vous le mettiez dans la corbeille, puis vous en ouvrez un autre. On est d'accord. Eh bien là, c'est pareil. Nous, quand on a une situation désagréable, eh bien, dès qu'on arrête d'accuser les autres, on dit c'est moi qui ai attiré cette situation-là dans ma vie. Donc à ce moment-là, je vais demander à ce que le programme parte dans la corbeille. Et comme le premier programme, il était vraiment désagréable, etc., il a de fortes chances que le suivant, il soit beaucoup mieux. Parce qu'on ne fait pas Ho'oponopono pour quelque chose. On fait Ho'oponopono que pour une chose. Effacer la mémoire erronée. On ne fait pas Ho'oponopono pour soigner tel un. On ne fait pas Ho'oponopono pour ceci ou pour cela. On fait simplement pour effacer la mémoire erronée. Et ce qui va se passer quand la mémoire erronée sera effacée, quand elle aura disparu, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose de bien. J'avais une dame comme ça qui m'a dit « Oh, docteur Bonin, j'ai lu votre livre sur Ho'oponopono. Il est bien, oh, il est génial. Mais, quand je fais Ho'oponopono, ça ne marche pas sur moi. » Un peu dommage de faire un bon bouquin pour que ça ne marche pas. Donc, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « J'ai un gros problème dans ma vie. Et j'ai un gros problème dans ma vie. Et puis, je fais Ho'oponopono, je fais Ho'oponopono, je fais Ho'oponopono. Puis le problème est toujours là. » Mais à peine après avoir pris sa respiration, qu'elle me dit « Oui, maintenant, je m'en fiche complètement. » Voilà, parce que c'est pas Ho'oponopono ne change pas forcément l'événement, mais change aussi la vision qu'on a de l'événement. C'est ça qui est important. Et là, donc, quand il y a un événement désagréable, je me rappelle que j'en suis l'instigateur, que j'en suis l'attracteur, donc j'en suis plus la victime. J'en suis pas en train d'attendre le bon vouloir d'un tel ou un tel. Eh bien, je dis merci, merci à la vie de m'avoir apporté cette situation désagréable, parce que comme ça, ça m'a permis de voir que j'avais cette mémoire erronée derrière que je ne savais pas. J'en suis désolé d'être le créateur, mais pas désolé pour les autres. Les autres, ils sont pour rien. J'en suis désolé, désolé pour moi. J'en demande pardon. J'en demande pas pardon aux autres. Je m'en demande pardon à moi. C'est à nous quand même. C'est à nous qu'on fait. Et je t'aime, c'est pas je t'aime à l'autre, c'est je m'aime. Malgré que ce soit moi qui en suis responsable, je m'aime. Et là, vous savez, ce qu'il faut, c'est vraiment dire les mots en pesant le sens. J'avais une dame, elle me dit, oh, je m'étais en guirlandais avec mon mari. Puis j'étais voir après. Puis je lui ai dit, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est bien, ça s'appelle la réconciliation, ça c'est pas Ho'oponopono, ça. Mais c'est bien, continuez, n'ayez pas peur. Non, il faut faire les mots avec bien penser. Ce qu'on veut. Et puis moi, si vous voulez, maintenant, c'est très rare quand je dis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est je dis simplement, je demande que cette mémoire, c'est que la mémoire, ou les mémoires, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une, que là où les mémoires soient effacées. Non, parce que je suis resté très pragmatique, je me dis, si je fais Ho'oponopono, c'est d'abord et surtout pour effacer la mémoire. Et ce qui va arriver derrière, je n'en sais rien. C'est le miracle. C'est le miracle. Voilà, donc là, Ho'oponopono, on peut le faire aussi Ho'oponopono en préventif. Moi, j'avais le cas d'un monsieur qui m'avait téléphoné, puis je sais que c'était... Enfin, vous m'avez compris. Donc, le truc, c'est qu'avant de le rappeler, j'ai fait Ho'oponopono sur toutes les mauvaises mémoires, toutes les mémoires erronées qui pourraient se mettre en travers de notre dialogue qu'on allait avoir au téléphone. Donc, j'ai fait Ho'oponopono, j'ai effacé toutes les mémoires. Et là, à ce moment-là, j'ai téléphoné, puis J'ai entendu, ah bonjour Luc, comment ça va? Il faudrait qu'on se fasse un petit, qu'on se prenne un petit point de Z4, etc. Charmant. Donc là, si vous voulez, parce que d'habitude, c'est généralement, ils causent, vous savez, vous pouvez décrocher, vous pouvez laisser le téléphone tout seul, hein, et ils causent au bout d'un quart d'heure, dire, allez, c'est fini, bon, bah, au revoir, merci. Vous avez pas, vous pouvez pas en placer, vous voyez un peu, vous connaissez certainement des personnes comme ça. Voilà. Donc là, la pratique, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est qu'on fait Ho'oponopono pour soi. Et ça, c'est très important. Et là encore, il y a des fois, une seule fois suffit, hein, quand vous avez une altercation, des choses comme ça. D'autres fois, quand c'est vraiment un truc comme le docteur Len, par exemple, docteur Len, il l'a fait tous les jours, pendant des jours et des semaines, pour commencer à avoir des résultats. Mais docteur Len ne l'a pas fait pour guérir ses patients. Docteur Len l'a fait parce que s'il avait ses patients dans sa vie, c'est qu'il y avait des mémoires erronées qui ont attiré ses patients dans la vie. Et donc il a fait ça pour effacer les mémoires erronées. Et regardez bien dans ses textes, il le dit, il explique très bien. Voilà, donc ça, Ho'oponopono, c'est pas un traitement, c'est pas une thérapie. Ho'oponopono, c'est vraiment une philosophie de vie qui va utiliser l'amour pour guérir, mais surtout l'amour de soi. C'est ça qui est très important. Ça, c'est l'amour de soi. C'est là la force d'Ho'oponopono. Et c'est pour ça que Manda Simeona a fait vraiment un travail extraordinaire, parce qu'elle a changé vraiment. Avant, c'était des choses qu'on faisait en tribu, qu'on faisait en groupe. Là, avec Ho'oponopono, on peut le faire toi-même et on change complètement sa vision de la vie. Parce qu'on n'est plus les victimes. Alors, une autre technique, et ce sera la dernière de ce soir, ce sera la méthode Aura. La méthode Aura... Eh bien, j'avais interrogé un jour l'enfant intérieur d'un groupe, je le fais souvent quand je fais des stages, et il y avait l'enfant intérieur qui arrive, et puis il arrive tout de suite, c'est assez impressionnant, et il me dit « mets l'amour, il n'y a pas que ça dans la vie ». C'est comme si j'avais reçu un uppercut, là, comme ça, au menton, ça m'a choqué, parce que je me dis, quand même, l'amour, si on était tous en train de vibrer dans l'amour, si l'amour régnait entre tous les humains sur la Terre, je veux dire, on vivrait sur une planète extraordinaire. Et je reviens le voir en lui disant « Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que l'amour ?» Et il me répond du tac au tac « La vacuité. » Là, j'ai trouvé que c'était très intelligent, c'était beaucoup trop intelligent pour moi, donc j'ai bien su que ça venait pas de moi, ça d'ailleurs, en plus, et j'étais pas du tout dans cette énergie-là, mais là encore, j'ai bien compris qu'il avait tout à fait raison. Et là, au point aura, ce sera, on va utiliser justement la vacuité. La vacuité, c'est-à-dire, c'est que la méthode aura, elle est très difficile parce qu'elle est très simple. Et donc, elle est tellement simple que beaucoup de gens ont du mal à la croire. Et donc, il ne faut pas la croire, il faut l'essayer, c'est surtout simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'aura, ben, aor, ça veut dire, on va mettre en lumière. On va mettre en lumière, aor, c'est le mot hébreu qui veut dire lumière. Et ra, c'est le dieu égyptien du soleil. Et ce qui est intéressant aussi, donc on va mettre en lumière notre problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aora, en maori, donc en Nouvelle-Zélande, ça veut dire terre de lumière. Et ça aussi, c'est vraiment rigolo, parce que vous retrouvez des analogies de termes, alors que c'est dans deux endroits complètement différents du monde. Donc notre corps est auto-guérisseur, il est auto-réparateur, il est auto-harmonisateur, il est auto-équilibreur. On sait tout ça. Quand on a un petit bobo, on n'a pas besoin de s'en occuper. Quand il y a un os à cicatriser, il se le fait tout seul, on est bien d'accord. Oui, mais alors, s'il est capable de faire tout ça, pourquoi il ne le fait pas tout le temps? Pourquoi? Tout simplement, on tombe malade. Pourquoi on tombe malade? Bien, il y a deux éléments qui sont intéressants à prendre en compte. La première chose, c'est notre vie courante. Notre vie courante, et la deuxième chose, c'est une incompréhension du sens de la maladie. Notre vie courante, c'est quoi? C'est que tout simplement, regardez ce qui se passe dans notre tête, dans votre tête. On a dans la mienne, dans tous, on a le zozo qui est en train de parler, le mental. Et patati, tatata, tiens, en fait, tu repars tout à l'heure, tu penseras refaire le plein d'essence, et puis demain, il faudrait que tu ailles chercher du pain parce que t'en as plus, et puis tatati, il est sans arrêt en train de vous causer. Et pourquoi t'as dit ça hier soir? Donc il est sans arrêt en train de tourner en rond dans votre tête et vous perturbe complètement, et en fin de compte, vous n'y voyez plus rien. Après ça, vous avez tous les cinq sens, les cinq sens qui vous fournissent des tonnes d'informations, de la lumière, de la chaleur, de la température, du bruit, de la vision. Vous avez, et sans parler du téléphone, de la télévision, donc tout ça, ça nous fournit des milliers d'informations à minute, je veux dire, des formations énormes. Et dans tout ça, il y en a un qui est en train de vous dire « Bobo genou ». Et là, vous êtes en train de voir les petits oiseaux qui chantent, les machins. Et donc là, et puis lui, il essaye d'insister, bobo genou, puis au bout d'un moment, ah, mais tu m'as causé, toi? Ah, bobo genou. Oui, bon, bah écoute, j'ai un truc bien plus important, j'ai un match de foot à la télévision, je peux pas m'occuper de toi, hein, là, vraiment. Donc, et vous continuez, on est toujours en train de, on a toujours quelque chose d'autre, de plus important. Et vous avez remarqué qu'on est toujours malade au moment où il faut pas. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ce matin, tiens, je me suis levé ce matin, tiens, je veux bien tomber malade aujourd'hui. Non, il n'y en a pas, jamais, ça ne marche pas. Donc là, le genou, il avait la mal, mais c'est jamais le bon moment. Donc jamais le bon moment, donc vous lui dites, tais-toi, moi j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Puis s'il insiste, ah bah écoute, tu me kikines, bon bah allez, je vais prendre un comprimé de paracétamol, t'es content maintenant, t'as un comprimé de paracétamol, tu nous fiches la paix. Donc voilà, et donc on est tous comme ça, on est bien d'accord. Hein. Tu bien que le conscient, lui, eh bien déjà, il n'avait pas conscience de cette douleur parce qu'elle était noyée dans un tonne d'informations. Et le plus beau, c'est que le jour où il commence à en prendre conscience, on lui dit, mais non, t'en occupe pas, lui, c'est vraiment pas intéressant, il y a des choses beaucoup plus importantes à travailler que s'occuper de son jeu. Donc là, c'est bien que les symptômes sont perdus dans un tas de fatras d'informations, et donc, la plupart du temps, quand on en prend conscience, on les dénigre. La deuxième chose, c'est qu'on a une incompréhension du sens de la maladie. Je vous ai dit tout à l'heure, avec la sophrologie, j'ai été éberlué par la puissance de notre corps, des capacités que pouvait avoir notre corps. Et si notre corps tombe malade, c'est pas parce qu'il est déficient. La plupart du temps, dans 90% des cas, il n'est pas déficient. Il n'y a pas de baisse immunitaire, il n'y a pas de fatigue, etc. C'est très rare. C'est quand il y a des dénutritions, quand il y a des maladies, des immunosuppressions, etc., des immunodépressions. Donc c'est des situations très graves, mais dans la plupart du temps, c'est pas notre situation à nous. Mais par contre, s'il tombe malade, c'est qu'il a une raison. Et s'il tombe malade, s'il a laissé tomber la maladie, c'est parce que tout simplement, il y avait une situation déséquilibrée. Il est en train d'essayer de nous faire comprendre qu'il y avait une situation déséquilibrée dans notre vie et que par ce biais de cette douleur, il est en train de passer des informations. C'est exactement pareil que quand le facteur, je ne sais pas si vous arrivez, si vous le faites, vous aussi, mais moi, de temps en temps, il m'amène des factures. Désagréable, hein, ce facteur. Il faut que j'en change, d'ailleurs. Donc le truc, le facteur, donc c'est pareil. Le facteur, c'est mon corps. La facture, c'est une douleur. Et quand il y a une douleur, ben c'est quand j'ai une facture, ben soit je la paye. À ce moment-là, le problème il est réglé. Donc soit j'ai une douleur, ben je vais la soigner. À ce moment-là, ben le problème va être réglé. Soit je vais pas payer la facture, donc je vais pas m'occuper du genou. Et le problème de genou, ben en s'aggravant, etc. Et là, le problème, c'est qu'il faut regarder aussi le symbolique de la maladie. Dans toute maladie, dans tout problème, il y a toujours une symbolique. S'il y a un problème de genou, c'est peut-être parce que j'ai porté trop lourd. Mais c'est aussi peut-être que j'ai une situation dans ma vie où j'arrive pas à plier. Donc là, il va falloir que je manque de souplesse dans quelque chose. Donc il faut absolument rechercher la cause. Là, j'avais le cas d'un monsieur qui était venu me voir. Il avait un problème lombaire. Problème lombaire, lui, il était chauffeur routier, donc j'aurais pu m'en tenir là, parce que chauffeur routier, problème lombaire, c'est une maladie professionnelle. Ok. Mais j'ai fait ses soins, puis je lui dis, mais quand même, vous avez l'air d'avoir des problèmes, vous, dans votre vie, là, en ce moment. Puis là, je me rappelle, vous savez, je vous ai dit, je suis en Normandie, puis là, il avait son bon patois, lui, puis... Vous êtes devant, c'est pas possible, vous êtes devant, vous. Je dis, je suis pas devant, mais que vous avez un problème de colonne vertébrale. En général, c'est le problème du gouvernail de la ville. La colonne vertébrale, c'est le gouvernail de la ville. Et donc, il me dit, bah oui, parce que moi, je suis chauffeur routier, donc, je suis tout le temps en train de travailler, mais comme je suis à mon compte, je suis obligé de faire des contrats avec des petits contrats pour attraper le contrat, pour attraper la chose. Donc en fin de compte, comme j'ai des petits contrats, ben, je suis obligé de multiplier les contrats pour gagner ma vie. Donc comme je multiplie les contrats, ben, je suis jamais chez moi. Et comme je suis jamais chez moi, ben, ma femme, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ben, mon petit coco, maintenant, il va falloir que tu choisisses, c'est ton camion ou c'est moi ? Camion ou moi ? Donc il y avait un choix à faire. Et donc lui, le problème lombaire vient bien de son problème de colonne vertébrale, de travail, etc. Mais d'un autre côté, c'était aussi ce choix au niveau de sa vie qu'il devait faire. Et il n'y avait que lui qui pouvait faire ce choix. Personne ne pouvait répondre à sa place. Et là, il y avait les deux. Le corps est en train de parler également de ce point de vue-là. C'est l'incompréhension du sens de la maladie. Et souvent, la maladie est une réaction saine de l'organisme face à une situation déséquilibrée. Et d'ailleurs, on dit le corollaire est de se dire, si on se sent équilibré dans une société déséquilibrée comme la nôtre, eh bien, ce n'est pas un signe de bonne santé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, pour vous faire comprendre l'aura, on va faire un tout petit exercice. Un tout petit exercice, c'est que vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et vous allez simplement vous concentrer sur votre épaule droite. Sans rien dire, sans rien demander, simplement pensez votre épaule droite. Épaule droite. Pensez votre épaule droite. Très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et maintenant, comparez votre épaule droite et votre épaule gauche. Pas de changement. On sent quelque chose qui glisse mieux. On sait pas, on pourrait pas dire quoi, mais on sent quelque chose que ça glisse mieux, que c'est mieux, que c'est plus équilibré. On est d'accord. Okay. Vous sentez tous, c'est bon. Et là, maintenant, peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur l'épaule gauche. Mais on va corser la chose. C'est-à-dire, c'est quand vous allez travailler à deux. Il va y en avoir un. Votre voisin va penser à votre épaule gauche pendant que vous allez penser à l'épaule gauche de votre voisin. Ok? Allez-y, mettez-vous par deux et pensez à ça. Il n'y a pas besoin de se mettre face à face, vous pouvez rester assis comme vous êtes. Il n'y a aucun souci. Voilà. Vous avez pensé simplement épaule gauche, comme vous avez pensé l'épaule gauche de votre voisin ou de votre voisine. Si vous voulez, c'est souvent bien. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Maintenant, comparez les deux. Est-ce que vous avez retrouvé un équilibre entre les deux? Voilà. Alors, si vous voulez, là, vous n'aviez pas de douleur. La plupart d'entre vous n'avez pas de douleur. Donc, on sent déjà qu'il y a une harmonisation qui se fait. Cet exercice-là. Donc cet exercice-là est important pour. Les deux exercices sont super importants parce que vous avez compris aussi que simplement votre attention sur une région de votre corps apporte déjà une harmonisation, même si elle n'avait pas de maladie particulière. Et en plus, le deuxième exercice est encore peut-être encore plus important, c'est que quand vous êtes en train de vous concentrer, là encore, sans rien demander sur une région du corps de votre voisin, vous allez aussi apporter de l'harmonie. Donc c'est quelque chose de fort. Vous avez vu déjà cette puissance de votre cerveau. Je vais garder un petit exercice juste à la fin, mais je voudrais vous faire on va terminer avec la méthode Aura. La méthode Aura, c'est que quand on a un problème, eh bien, on commence tout simplement par arrêter nos activités. Arrêter les activités pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est vraiment un maximum. Vous arrêtez complètement vos activités. Le mieux, vous pouvez faire ça dans le métro, vous fermez les yeux, vous rentrez dans votre corps, point barre. Vous pouvez faire ça n'importe où, tranquillement. Vous arrêtez vos activités, c'est-à-dire que vous ne répondez plus au téléphone, vous n'êtes plus sur l'ordinateur, vous ne gardez même pas un œil dessus, vous ne faites plus rien. Et vous allez vous concentrer sur votre problème. Vous allez regarder votre douleur de genou, vous allez regarder votre douleur de dents, vous allez regarder, par exemple, si vous êtes anxieux, vous regardez comment ça serre dans votre gorge ou dans votre estomac, comment ça crispe les yeux, le visage, etc. Regardez simplement les symptômes, mais vous les regardez sans intention ni jugement. Sans intention et sans jugement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire cette cochonnerie de saloperie de douleur, vous n'êtes pas en train de dire non plus, je demande à ce qu'elle s'en aille. Vous comprenez? Là, vous ne dites rien, vous la regardez simplement. Et là, vous allez voir, vous laissez après ça le temps à la magie d'Aura d'agir et vous verrez qu'à ce moment-là, l'énergie, tout doucement, la douleur, le spasme, etc., va partir. Et là, c'est vraiment très bluffant parce que j'ai vu. Au tout départ, j'ai commencé à l'utiliser pour tous les petits problèmes de bobologie, les petites douleurs, les spasmes, les contractures, les nausées, etc. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont débordé ma pensée et qui ont commencé à l'utiliser dans des cas beaucoup plus importants, comme dans l'hypertension, comme des diabètes, etc. Et donc on a vu des résultats. Donc il n'est pas question non plus d'arrêter le traitement pour faire Aura, on n'est pas, il faut surtout pas faire ça. Le truc, c'est que les personnes avaient un traitement anti-hypertenseur et elles commençaient à faire Aura, puis elles commençaient à voir que les tensions baissaient. Et donc, à ce moment-là, il suffit de voir le médecin pour voir si on peut modifier la posologie du traitement, c'est évident. Donc, Aura, c'est vraiment... J'avais même une jeune femme qui était très intéressante, entre guillemets. C'est que cette jeune femme était médecin, et toujours médecin. Et elle m'a dit, j'ai arrêté ma poussée de polyarthrite rhumatoïde rien qu'avec Aura. Intéressant, parce que là, généralement, c'est avec la cortisone ou avec des choses comme ça. Donc là, ça n'a pas arrêté. Il y avait une autre dame, elle avait une douleur à la dent, donc elle a fait aura plusieurs fois pour calmer sa douleur. Puis elle a été voir le dentiste, comme il se doit, et le dentiste a été très étonné qu'elle n'ait pas souffert, qu'elle n'ait pas eu besoin de prendre de dentalgique, parce qu'en fin de compte, la dent était carrément cassée en deux. Donc un aura vraiment a des techniques une technique très très simple et très efficace. Et là encore, on utilise la force de la vacuité qui est importante. Alors, vous voyez, c'est que la conclusion de tout ce qui est énergie, ça donne des résultats incontestables. Il y a vraiment des résultats dans tous les niveaux. Elles ont de nombreuses techniques, et il n'y a pas de mauvaises techniques, il n'y a que des techniques différentes. Et là, je serai le dernier à critiquer ceux qui font telle ou telle technique, parce que chacun a leur utilité, hein, des utilités. Les patients, il y a un patient qui peut aller voir telle spécialité parce que ça lui répond, et il ne va pas aller voir l'autre, parce que chacun a son feeling, chaque thérapeute, chaque malade, et vraiment, c'est des choses qui sont complémentaires. Ce sont des traitements d'autonomie individuelle, je pense surtout à Aura, au Ho'oponopono, aux soins énergétiques, etc. Et puis ce sont des traitements complémentaires ou alternatifs, c'est des MAC, comme on dit en médecine conventionnelle, ce sont des médecines complémentaires quand il y a des traitements conventionnels, c'est des traitements alternatifs quand la médecine conventionnelle n'a pas de choses à vous proposer. Donc là, avant de passer à ces quelques informations, je vais vous faire un dernier petit exercice, si vous le voulez. Un dernier petit exercice, c'est l'exercice de l'amour. C'est pas mal comme programme, surtout pour aller avant d'aller se coucher. L'exercice de l'amour, vous étiez à deux là tout à l'heure. Okay. Donc à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est toujours à deux. Il y en a un qui va commencer et qui va envoyer de l'amour à l'autre. Okay. Et l'autre va se mettre en position de réception. Et comment qu'on sent cet amour qui rentre en nous, qui arrive sur nous? Eh bien, on peut le ressentir de différentes façons selon les personnes. Vous pouvez sentir ça sous forme d'une chaleur, d'un petit picotis, d'une sensation de bien-être, d'une sensation de détente. Okay ? Et donc, si c'est vous qui êtes le récepteur, je dirais, de cet amour, ressentez cet amour rentrer en vous, ressentez comment il agit sur vous positivement. Et puis, une fois que vous l'avez ressenti, vous dites à la personne qui est en face de vous, c'est bon, j'ai ressenti, et vous inversez les rôles. Vous n'avez pas besoin de vous mettre face à face, vous pouvez vous mettre côte à côte. Ce que je vous demanderais, mais ce n'est pas une obligation, chacun est libre, vous savez, je suis très, très tolérant sur tout ça, mais ce que je vous conseillerais plutôt, n'utilisez pas les mains. Parce que quand on utilise les mains, on peut se dire, bah oui, c'est mes mains qui ont envoyé ça. C'est simplement pour vous montrer que simplement, en ouvrant le cœur, en ouvrant l'esprit, il n'y a pas besoin d'y mettre autre chose. Voilà. Donc vous vous mettez par deux, vous restez assis tranquillement, vous pouvez vous situer à deux endroits différents de la pièce, et il y en a un qui décide simplement qu'il commence à envoyer de l'amour. Et quand vous l'avez ressenti l'amour, eh bien, vous inversez les rôles. À vous de jouer, mes amis.
Bon, je commence, ça va ?
D'accord.
Okay.
C'est là.
C'est là.
Alors, moi.
Inverser les rôles, ben, mais pas trop fort. Mais là, parce que je sais, non, je n'ai pas bien senti vraiment un petit coup sous les bras.
Pas de chaleur, pas de chaleur jusqu'aux oreilles. Pas de chaleur jusqu'aux oreilles. J'ai un coup de chaud, hein. J'ai un coup de chaud.
D'accord.
vous.
C'est probant.
Alors, vous avez ressenti, je le vois, je le constate, comment ça fait du bien, comment qu'on est bien, comment que, quand on envoie de l'amour et qu'on reçoit de l'amour, comment ça fait du bien. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire bien comprendre la suite que je vais de mon propos et par rapport à ça, ce qu'on vient de faire. C'est que j'ai un ami qui travaille dans l'armée, enfin dans l'armée de réserve, et puis qui me dit, tu sais, Luc, l'armée, elle est en train de faire des recherches pour la nourriture pranique. La nourriture pranique pour les soldats, parce qu'évidemment, s'ils se nourrissent du prana, bah, évidemment, ils n'ont plus besoin d'aller de recevoir leur corned beef, etc. Donc, il n'y a plus besoin d'emmener des camions de ravitaillement. Mais je lui dis, mais c'est génial, parce qu'il n'y a plus besoin de ravitaillement, c'est génial, c'est vraiment extraordinaire, vous continuez dans ça, c'est vraiment une recherche passionnante. Mais ce n'était pas dans ce but-là que je leur disais ça. Le but que j'avais, c'est que pour manger du prana, il n'y a qu'une seule solution pour manger du prana, c'est qu'il faut monter son niveau vibratoire. Et si on monte son niveau vibratoire, ben, il n'est plus possible après de prendre le fusil et d'aller tirer sur le voisin. Donc je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde.